Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 21 octobre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Ukraine, l'Iran appelle l'ONU à empêcher toute exploitation de la résolution 2231 qui endosse l'accord multilatéral nucléaire de 2015. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, la mise en garde de l'Iran contre tout changement géopolitique dans la région. Fournir à la Russie des armes et des drones contre l'Ukraine n'est pas la politique de Téhéran, insiste le chef de la diplomatie Hossein Amir Abdollahian. Et puis, l'Iran pointe du doigt l'hypocrisie des responsables français et le qualifie de regrettable. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. À la une de ce journal, la conférence de presse du chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian aux côtés de son homologue arménien à Erevan. L'Iran ne tolérera aucun changement géopolitique dans la région. Pour nous, il s'agit d'une ligne rouge et nous agirons pour l'empêcher, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères à l'occasion d'une conférence de presse jeudi aux côtés de son homologue arménien à Erevan. Le ministre des Affaires étrangères iranien, s'exprimant à l'occasion d'un point de presse conjointe aux côtés de son homologue arménien, s'est dit heureux d'être à Erevan avant d'indiquer « J'ai eu des entretiens très importants et constructifs avec mon homologue. Nous échangeons nos points de vue sur les questions commerciales et économiques. Le volume des échanges entre nos deux pays est de 700 millions de dollars, un chiffre que nous avons convenu d'augmenter », a-t-il dit. Se référant aux déclarations de son homologue arménien, Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie iranienne a poursuivi « Comme l'a mentionné le ministre, l'un de nos autres plans consiste à mettre l'accent sur la facilitation de la coopération consulaire et le renforcement de la route nord-sud depuis l'Arménie, qui est fortement soutenue par l'Iran et la région. » Amir Abdollahian a souligné que l'ouverture du consulat iranien à Kapan ce vendredi est à l'ordre du jour de son collègue et soi-même, et a ajouté « Pour l'Iran, la présence des forces étrangères et leurs interventions dans n'importe quelle partie de la région ne profiteront pas au peuple de la région. Nous espérons que les problèmes de la région seront résolus à travers les formats attendus, c'est-à-dire 3+3 ». Il a précisé une fois de plus que l'Iran ne tolérerait aucun changement géopolitique dans la région. Nous le considérons comme notre ligne rouge et nous agirons pour l'empêcher. En réponse à la question d'un journaliste arménien sur des pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il a déclaré «
Nous avons discuté de cette question ce soir et c'est l'une des principales questions qui est à l'ordre du jour. De même, nous convenons qu'en raison de l'importance de l'Inde, un format à trois devrait être conçu entre l'Arménie, l'Inde et l'Iran. Interrogé par le journaliste arménien sur les pourparlers nucléaires, Amir Abdollahian a déclaré « Nous avons eu des échanges et des discussions à cet effet ces derniers jours. J'ai eu une conversation téléphonique avec M. Joseph Borrell dans les heures précédentes. Je peux dire que tout est sur la bonne voie. Nous avons convenu d'établir une coopération entre l'Iran et l'agence viennoise, mais une accusation sans fondement est portée par l'agence contre Téhéran. Nous avons donc décidé de répondre aux questions de l'agence. » Le très haut diplomate iranien a ajouté « Un accord a été conclu pour l'échange de prisonniers iraniens et américains et nous avons livré le prisonnier américain à Oman via un pays tiers et dans le cadre d'un geste humanitaire. » Le ministre des Affaires étrangères a également parlé du soutien des États-Unis et de l'Europe aux récentes troubles en Iran. Les Européens et les Américains ont agi activement dans les troubles et les émeutes en Iran. Pour nous, il y a une distinction entre les terroristes et les manifestants pacifiques, a-t-il dit. Pour sa part, son homologue arménien a déclaré « Les problèmes de la région doivent être résolus par les pays voisins et par le dialogue. Nous nous sommes penchés sur l'importance des négociations multilatérales et bilatérales. » Le ministre arménien des Affaires étrangères a poursuivi « Nous attachons une grande importance aux infrastructures routières pour renforcer les relations avec l'Iran. » Je suis heureux que la visite du ministre iranien des Affaires étrangères coïncide avec l'ouverture du consulat iranien et qu'il s'agisse d'une étape importante pour la coopération entre les deux pays, a-t-il dit. Les intérêts nationaux et la sécurité, l'Iran les défend sans merci. Le commandant des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique, Séjéhiri, déclarant que les forces armées iraniennes défendront sans merci les intérêts nationaux et la sécurité de l'Iran, a indiqué « Nos forces armées sont puissantes et si quelqu'un ose franchir nos lignes rouges, nous nous l'affronterons certainement ». Le général Mohammad Pakpour, s'exprimant lors des exercices de l'autorité du corps des gardiens de la révolution islamique dans la région de Moran, faisant référence aux exportations d'énergie de la région du Golfe Persique, a déclaré « Les conditions qui existent dans les pays du Golfe Persique et de la région nous obligent à être sensibles à ces zones car notre sécurité nationale et nos intérêts y résident. » Faisant allusion au conflit dans la région du Caucase, il a déclaré « Nous sommes heureux que la République d'Azerbaïdjan ait libéré les territoires occupés dans la région de Karabakh et nous nous en félicitons. S'attardant sur les tentatives du régime sioniste pour pénétrer les frontières de notre pays, le commandant des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique a poursuivi « Après que le régime israélien a réalisé la puissance régionale de l'Iran, dont l'influence s'étend jusqu'aux portes de ce régime, il a songé à implanter des bases en bordure de nos frontières sous différentes formes, manière de menacer la République islamique. Qu'il sache, nous ne tolérerons pas ces agissements et nous permettrons pas au régime sioniste d'avoir une base à nos portes. » Le général Pakpour a mis en garde contre tout changement dans les frontières communes iraniennes pour dire que cela affecterait certainement les intérêts nationaux de l'Iran. Notre présence et nos manœuvres sur la zone publique d'Arras transmettent ce message à nos ennemis, à savoir « Nous ne sommes pas indifférents à nos intérêts nationaux et à notre sécurité nationale et que nous n'avons aucune complaisance envers qui que ce soit. » Nos forces armées sont puissantes et si quelqu'un veut franchir nos lignes rouges, nous l'affronterons et nous nous neutraliserons certainement, a-t-il insisté. Notre présence n'est ni pour ni contre aucun pays. Nous menons une politique de neutralité quant au conflit des pays, mais notre présence sur les frontières est pour nos propres intérêts et notre sécurité, a-t-il conclu. Fournir à la Russie des armes et des drones contre l'Ukraine n'est pas la politique de Téhéran. le ministre iranien des Affaires étrangères lors d'un appel téléphonique avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a déclaré que l'Iran et la Russie avaient une coopération en matière de défense, mais que fournir à la Russie des armes, des drones contre l'Ukraine n'est pas la politique de Téhéran. Lors d'un entretien téléphonique avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, le ministre iranien des Affaires étrangères, tout en rappelant la position de la République islamique concernant la guerre en Ukraine, a précisé « Les allégations d'envoi d'armes iraniennes en Russie pour une utilisation contre l'Ukraine sont sans fondement. Nous avons une coopération de défense avec la Russie, mais ce n'est pas notre politique d'envoyer des armes et des drones contre l'Ukraine. » L'Iran cherche à mettre fin au combat par la voie diplomatique en Ukraine. Nous conseillons aux Européens de traiter cette question du point de vue du réalisme. Nous avons une coopération ensemble, mais notre position sur la guerre en Ukraine est basée sur le respect de l'intégrité territoriale de ce pays, le non-approvisionnement en armes des deux parties, l'arrêt de la guerre et la fin des déplacements de civils, a ajouté le ministre. Sachez également que l'Iran a appelé vendredi ses ressortissants à quitter l'Ukraine et à éviter de s'y rendre compte tenu de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Le département consulaire du ministère iranien des Affaires étrangères, publiant un communiqué, a déclaré « En raison de l'escalade des conflits militaires et de l'augmentation de l'insécurité en Ukraine, il est fortement conseillé à tous les citoyens iraniens de s'abstenir de se rendre dans ce pays ». Dans la dernière partie du communiqué du ministère des Affaires étrangères, on peut lire « Les voyageurs et compatriotes vivant en Ukraine sont priés de garder leur calme et de contacter l'ambassade de la République islamique d'Iran à Kiev si besoin ». Enfin, pour Téhéran, l'hypocrisie des responsables français est regrettable. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré jeudi que l'Iran observait très attentivement les manifestations populaires et les grèves pour des revendications pacifiques en France. En réaction à la violente confrontation de la police française avec les manifestants, Nasser Kanani a déclaré que l'Iran condamner l'usage de la force et de la violence pour faire reprendre le travail aux grévistes sans tenir compte de leurs revendications. L'hypocrisie des autorités françaises est regrettable, a souligné le diplomate iranien. Kanani a souligné que les autorités françaises, d'une part, insistent pour commettre des actes coercitifs et violents qui ont déjà été utilisés contre les manifestants de Gilets jaunes, ainsi que la brutalité policière dans les conflits raciaux, et d'autre part, elles prêchent hypocritement et utilisent des machinations politiques contre d'autres États. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Ukraine. L'Iran appelle l'ONU à empêcher toute exploitation de la résolution 2231. L'Iran appelle l'ONU à ne pas exploiter la résolution 2231 sur son programme nucléaire pacifique en la liant à la prétendue utilisation de drones iraniens par la Russie dans la guerre en Ukraine, rejetant par ailleurs la demande infondée de Kiev de lancer une enquête en la matière. Le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a fermement rejeté la proposition de Kiev, appelant l'ONU à envoyer des experts sur le champ de bataille en Ukraine pour inspecter de près les débris des drones abattus dans le cadre d'une enquête sur la prétendue utilisation de drones iraniens par la Russie dans le conflit ukrainien, qualifiant par ailleurs de dépourvue de toute base juridique la décision de relier l'affaire à la mise en application de la résolution 2231 sur le nucléaire iranien. dans une lettre à l'adresse du secrétaire général de l'ONU et du président du Conseil de sécurité de l'ONU, Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU, a reproché à l'Ukraine d'avoir ignoré la position neutre de l'Iran dans la guerre sévissant dans ce pays et de continuer de faire de fausses allégations qui proviennent d'une approche basée sur des informations sans preuve et la politique politisée. Il a accusé l'Ukraine de lier les allégations infondées contre l'Iran et la résolution 2231 pour atteindre ses objectifs politiques, expliquant que l'usage d'armes conventionnelles dans la guerre ukrainienne n'avait aucun rapport avec l'annexe B de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. Les restrictions signalées dans le paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies ont expiré en octobre 2020 et depuis lors, aucune des actions de l'Iran visant à fournir, vendre ou transférer des armes ou de matériel militaire à d'autres pays n'est soumise à la résolution 2231, a-t-il noté. L'ambassadeur et représentant de la République islamique d'Iran a également considéré les allégations de l'Ukraine sur le paragraphe 4 de l'annexe B de la résolution 2231 comme issue d'une interprétation erronée et irrégulière. Le paragraphe 4 de l'annexe B de la résolution 2231 évoque clairement les restrictions de fournir de munitions, d'équipements et de technologies pour développer des systèmes de missiles dotés d'armes nucléaires. Sur ce fond, l'Iran n'a jamais fourni et ne fournira pas de matières, équipements, munitions, ni de technologies pour la fabrication d'armes nucléaires, surtout à des États qui en sont dotés eux-mêmes et n'en ont pas du tout besoin, a-t-il précisé. L'Iran, a-t-il souligné, appelle le secrétaire général de l'ONU à empêcher toute exploitation de la résolution 2231 en la liant à la guerre en Ukraine, exigeant que cette missive soit enregistrée et diffusée comme document du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue sur les plateaux de Presse TV à partir des studios de Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, l'OTAN, les manifestations, les problèmes d'énergie et les adhésions de l'OTAN. Comme d'habitude, nous sommes en débat aujourd'hui. Je vous propose, comme d'habitude, un reportage et après la venue de nos deux invités qui donneront donc leur point de vue, débattront sur le sujet donc de l'OTAN, des manifestations qui ont lieu régulièrement, notamment dans l'Union européenne, et également des adhésions différentes de l'OTAN. Tout de suite, je vous propose donc le reportage.
L'Europe secouée par des manifestations généralisées dues à la crise énergétique résultant de la guerre en Ukraine. En France, de nombreux appels à la grève ont été déposés pour le mardi 18 octobre afin de réclamer une hausse des salaires et de s'opposer aux réquisitions des grévistes. Dans l'industrie pétrolière, la grève devrait se poursuivre chez Total Energy dans les équipes de raffinage et de dépôt de carburant. Concernant ce mouvement de grève qui touche les raffineries, il y aura des réquisitions autant que nécessaire, rassurait Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Près de 150 points de rassemblement sont prévus en France, selon la CGT, qui organise cette journée avec les syndicats FO, Solidaires et FSU, et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et la vie lycéenne. À Paris, la manifestation doit démarrer à 14h de la place d'Italie en direction de la place Vauban. Un autre cortège pour protester contre la réforme des lycées professionnels défilera du métro Saint-François-Xavier au métro Sèvres-Babylone. La précédente journée de mobilisation interprofessionnelle, le 29 septembre, avait rassemblé 118 500 personnes, dont 13 500 à Paris, selon la police, et 250 000 et 40 000 selon les organisateurs. Des manifestations ont été organisées en Europe contre l'OTAN, la guerre en Ukraine et la fourniture d'armes à l'Ukraine. En Italie, des manifestations ont eu lieu dimanche 16 octobre dans la capitale Rome pour protester contre l'adhésion de ce pays à l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis ainsi que contre la vie chère. Il y a quelques jours, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Paris pour demander la fin de l'adhésion de la France à l'alliance militaire dirigée par les États-Unis. Eux aussi, ils ont exhorté leur gouvernement à mettre fin à la livraison d'armes à l'Ukraine qui n'a fait que prolonger la crise. Les capitales de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la Moldavie et de l'Angleterre ont été également la scène des manifestations contre l'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie, ainsi que contre la guerre en Ukraine à l'origine de ces problèmes.
Alors, comme vous l'avez entendu, les manifestations ne cessent pas. Bien au contraire, elles ne font qu'augmenter. Nous avons vu ces derniers mois des manifestations contre l'OTAN et l'opposition à la guerre avec l'Ukraine, par le biais de l'Ukraine contre la Russie, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, des pays également qui ressentent au plus fort et au prix le plus cher les augmentations de l'énergie. Comme le veut la tradition du débat, nos invités, après le reportage, nous accueillons donc M. Luc Michel, géopoliticien basé à Bruxelles. Bonjour M. Luc Michel, ravi de vous revoir sur nos plateaux.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue, et toujours un grand plaisir d'être présent avec vous. Ces manifestations sont très importantes parce qu'elles montrent que les populations européennes sont opposées à la guerre américaine en Ukraine.
En effet, donc beaucoup de manifestations ces derniers temps. Notre deuxième invité étant M. Arnaud Develet, juriste international. Est-ce que M. Arnaud Develet nous a rejoint ?
Oui, je suis là.
Bonjour, monsieur Maître Develet. Donc, comme je l'ai indiqué, nos deux invités étant présents, nous pouvons commencer le débat. Ces manifestations, Maître Develet, commençons par vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a vu toute l'Europe, l'Union européenne s'y opposer. Le peuple européen, je ne parle pas forcément des politiciens, le peuple européen s'opposer à l'OTAN. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, d'abord, je souhaitais dire bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Luc Michel et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, monsieur.
Écoutez, c'est très simple. L'Union européenne, dans sa configuration actuelle, enfin, ça date pas d'hier, est complètement corrompue jusqu'à son sommet. On a une Commission européenne composée de commissaires politiques qui ne sont absolument pas élus et qui sont eux-mêmes, si je puis dire, impliqués dans des affaires de corruption à grande échelle, que ce soit au niveau l'industrie pharmaceutique, que ce soit au niveau des fabricants d'armes. Et ce faisant, ce sont eux qui donnent le là, et les gouvernements dits nationaux sont en fait des gauleiters, comme on avait à l'époque de l'occupation nazie en Europe, donc vassalisés, ils mettent en œuvre, ils relaient, si je puis dire, la feuille de route. Donc la feuille de route, pour l'instant, elle est décidée à Washington et Bruxelles, à savoir, il faut... selon eux, en tout cas, mettre la Russie à mal. Il faut se servir donc de l'Ukraine pour ce faire. Il faut donc délivrer un maximum d'armes. Et on a vu encore récemment en France, Emmanuel Macron était sur une émission télévisée à portée nationale il y a quelques jours. Et alors même qu'il prétend ne pas vouloir impliquer la France dans le conflit, il a annoncé un nouveau package, si je puis dire, d'armement, dont des systèmes... antibalistique Crotale. Il va rajouter des missiles César à longue portée et il va rajouter aussi tout un tas de comment dirais-je, d'équipements, ce qui fait que juridiquement on est en co-belligérance essentiellement et on pourrait se demander quel est l'intérêt pour la France de continuer à attiser ce conflit qui voit effectivement, et ça se voit maintenant dans les rues, le pouvoir d'achat des Français baisser de manière drastique et surtout le coût de la vie complètement devenir hors de contrôle. Et encore une fois, dans un contexte des tensions de plus en plus importantes, c'est un jeu extrêmement dangereux et on peut se demander si quelque part ce n'est pas une politique qui est poursuivie. Alors à la maison, sur un front domestique de tension, stratégie de la tension, avec ces pénuries qui sont selon moi organisées plus ou moins par le gouvernement, parce qu'il n'y a pas d'autres je n'ai pas entendu de pénurie ailleurs en Europe. Et sur le plan extérieur, bien sûr, essayer de provoquer une escalade dans le conflit à l'échelle continentale, peut-être dans le contexte élargi d'un agenda qui m'échappe. Alors, toujours est-il que tout ça, ce n'est pas du tout dans l'intérêt des Français.
Merci, Maître Develay. Monsieur Luc Michel, donc, vous-même qui êtes en Europe, qui vivez la situation avec le peuple européen, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois que l'Europe et le peuple européen, les citoyens européens manifestent contre les adhésions différentes des pays européens. Je parle notamment de l'ONU et de l'OTAN. Ce n'est pas la première fois que les Européens s'opposent aux décisions de ces deux systèmes. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ?
Tout d'abord, je voudrais compléter ce qu'a dit Maître Develay. Je ne pense pas que les politiciens européens sont des Gauleiters gentils, mais les Ursula von der Leyen, les Joseph Borrell, les Charles Michel, nous ne sommes pas parents, c'est un homonyme, mais aussi les Macron, Trousseau et compagnie, ce sont en 2022 les héritiers de Kislyak et de Pétain. Et comme Zelensky est l'héritier de Bandera, ce sont les collaborateurs des nazis. Il y a eu les manifestations contre l'OTAN en France, en Allemagne, à Prague. Aujourd'hui, il y a des manifestations socio-professionnelles. Le régime Macron, par exemple, nous dit que c'est des questions de salaire et de pénurie d'essence, mais en fait, c'est directement lié au coût de la guerre américaine en Ukraine et aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Le vice-président, l'ancien président russe Dmitri Medvedev, a appelé d'ailleurs les populations européennes à sanctionner ceux qu'il appelle les dirigeants idiots et irresponsables de Bruxelles. Il y a eu un sondage d'écran sur l'émission « Tout le monde en parle », qui est une télé-réalité la plus populaire en France. 75% des téléspectateurs se sont prononcés contre les sanctions pour la Russie et contre l'arrêt du soutien en Ukraine. Voilà la réalité, évidemment. La télévision russe s'est moquée des grèves en France et des bagarres dans les rues et des chocs sociaux sur la question des livraisons d'énergie. Et elle a répondu à Joseph Borrell. Joseph Borrell, la semaine passée, appelait à des frappes nucléaires contre la Russie. On rappellera que c'est un politicien espagnol atlantiste qui est à la tête de l'Union européenne et qui n'a pas été élu. Mais cette semaine-ci, il a dit que l'Europe était un jardin et que le reste du monde était une jungle. La télévision russe lui a répondu que c'était de ce jardin qu'était issu Adolf Hitler et Benito Mussolini. C'est la réalité. Il y a une hypocrisie fondamentale des dirigeants atlantistes. Il y a 30 ans, lors des guerres de Yougoslavie et de la première guerre du Golfe, le grand géopoliticien européen, le général autrichien Jordi von Lausen, aujourd'hui disparu, disait que les guerres, la participation aux guerres américaines par les politiciens européens de l'OTAN était une trahison fondamentale des intérêts de leur peuple. Il a encore aujourd'hui tout à fait raison.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Maître Develay, vous-même, étant, si je ne me trompe pas, à Damas, vous avez vu vous-même le travail que fait l'OTAN à l'extérieur de ce présumé jardin, alors que les peuples n'en veulent pas. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de la voix européenne qui, de plus en plus, demande l'inexistence de l'OTAN, puisque à un moment donné, on a même parlé de la disparition de l'OTAN et cette guerre avec l'Ukraine est arrivée. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je pense au contraire que l'OTAN est plus que jamais d'actualité. Bon, Trump en avait parlé parce que lui, c'est un politicien nationaliste qui ne voit pas l'intérêt de dépenser le trésor des États-Unis dans des excroissances extérieures néo-impériales. Mais au niveau de la bureaucratie fédérale américaine, l'OTAN est une pièce fondamentale. Ça fait vivre beaucoup de gens, beaucoup de bureaucrates internationaux. Et surtout, ça permet d'enrichir les fabricants d'armes. Donc l'OTAN, normalement, aurait dû disparaître en 1990. En tant qu'alliance défensive, la menace qui avait été mise en avant et gonflée artificiellement à l'époque par ce qu'on appelait le B2B dans les années 70 aux États-Unis, un peu les ancêtres des néoconservateurs d'aujourd'hui, qui nous avait refait le coup ensuite avec la menace internationale de l'islamisme radical. Mais voilà, c'est l'idée de l'OTAN, c'est que c'est un application à s'étendre sur un plan planétaire et donc de trouver toujours de nouvelles justifications pour pouvoir obtenir davantage de budget et faire vivre les centaines de milliers de personnes qui composent sa bureaucratie, tout simplement.
Merci, Maître Develé. Monsieur le Michel, que disent donc les manifestations à proprement parler par rapport à la guerre avec l'Ukraine, leur opposition à l'OTAN, c'est quoi comment ils justifient les manifestations, les Européens?
Mais moi, je suis beaucoup plus nuancé que Maître Develé. Tout d'abord, l'OTAN, ce n'est pas une alliance défensive. Elle se présente comme le bouclier de l'Europe, mais en fait, c'est le harnais de l'Europe. C'est celle qui assujettit l'Union ouest européenne aux États-Unis, qui sont les vassaux de l'Amérique. Et c'est un phénomène d'esclavage. Mais il y a deux phénomènes intéressants d'Europe. C'est que des masses de plus en plus larges refusent l'OTAN et elles y sont conduites par le coup de la guerre américaine en Ukraine. Mais à côté de ça, il y a un autre phénomène. C'est l'existence d'élites, si vous voulez, non politiques européennes, c'est-à-dire des cadres, des généraux, des amiraux, des diplomates, des industriels. Eux veulent s'entendre avec la Russie. Le chef de file, c'est l'ancien chancelier Schröder en Allemagne. On n'a pas réussi à éliminer de la vie politique allemande. Aujourd'hui, lorsqu'il y aura une jonction entre ces élites européennes anti-américaines et les masses européennes anti-américaines, ce sera la fin de l'OTAN. Voilà pourquoi beaucoup d'Européens manifestent. Les manifestations avaient commencé déjà en 2018 à Bruxelles, lors de la venue de Donald Trump. Et aujourd'hui, Joe Biden, en fait, a réussi le programme de Trump. Il a réussi à réassujettir l'OTAN. On ne parle plus de défense européenne. On ne parle plus des mérifiques projets de l'agence américaine qui est Macron. Mais en réalité, les Américains dominent complètement l'OTAN aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Europe? Il y a eu un document qui a fuité aux États-Unis. Il y a deux semaines, il était mis par un think tank tout puissant qu'on appelle la Rand Corporation. Il a été rédigé avant la guerre en Ukraine. Il explique que les buts des Américains doivent être de détruire géopolitiquement la Russie et de détruire économiquement l'Union européenne en fracturant l'union économique de l'Union européenne avec la Russie et en empêchant les livraisons d'hydrocarbures russes en Europe de l'Ouest. Malheureusement, dans ce domaine-là, s'ils ont échoué contre la Russie, les Américains, dans ce volet contre l'Europe, ont parfaitement réussi.
En effet, M. Luc Michel, j'allais justement en parler. L'économie, on parle de 2 ou 3 ans de Corona, on parle d'une inflation que subissent les Européens depuis 10 ans, parce que la crise économique ne date pas de la guerre avec l'Ukraine. La situation européenne depuis un certain temps est quand même critique. Et cette guerre avec l'Ukraine, qui n'a pas été forcément voulue par les Européens, est bien là, est bien à leur porte. Et ils s'en subissent les coûts les plus importants, étant donné que beaucoup de choses dépendent de l'Ukraine pour l'Union européenne. Monsieur Develé, vous regardez ça de loin, mais vous suivez ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était vraiment le moment le plus critique, cette guerre avec l'Ukraine, pour l'Union européenne.
Oui, on a dit que la guerre contre l'Ukraine, en Ukraine, que c'était un accélérateur, effectivement, d'un agenda, Luc Michel fait bien de le souligner, qui avait été mis en place par la Ronde en 2009 déjà. Ça passait par allumer un maximum de fragilité autour de la Russie, pour l'embourber dans des et drainer donc tout son potentiel avec que le peuple se révolterait et provoquerait un changement de régime. Le temps c'est d'avouer que cette stratégie, cette tactique en tout cas, a complètement effectivement eu l'effet inverse, en tout cas pour ce qui est de l'Europe. Mais pour ce qui est des États-Unis, effectivement, ils éliminent un concurrent direct sur un plan économique. Et ils, si je puis dire, consolident leur position dans peut-être l'idée, après, une fois que le processus d'appauvrissement en Europe aura été mené à son terme, peut-être alors engager des pourparlers pour une redéfinition des sphères d'influence. Mais effectivement, cette a eu comme collatéral l'effondrement d'une économie européenne. Depuis au moins 20-25 ans, on dit d'elle qu'elle ne produit aucune croissance, elle ne vit que sur la dette, et que partant de là, effectivement, comme vous l'avez très bien souligné, le crash de 2008 avait déjà considérablement exposé la fragilité des institutions financières européennes. En 2011, il y avait les stress tests qui avaient révélé que 9 banques sur 10 pratiquement n'étaient pas en mesure d'éponger les pertes qui seraient occasionnées par une nouvelle affaire des subprimes. Et donc, si je puis dire, voilà, l'Union européenne, je pense, va imploser de l'intérieur, puisque si elle ne peut pas, si je puis dire, d'une croissance qui permettrait au peuple de vivre décemment, il est difficile d'imaginer comment politiquement elle peut se maintenir.
Merci, Maître Develet. Alors, Monsieur Luc Michel, c'est vous qui avez abordé la question économique. On l'a bien dit, oui, Monsieur Develet a confirmé depuis 2008, finalement, l'Union européenne fait face à une crise économique de plus en plus croissante et malgré des salaires qui ne bougent pas, vous-même qui êtes à Bruxelles, vous avez dû voir la qualité de vie des Européens diminuer de plus en plus, et cette période de corona et maintenant de guerre n'a fait qu'aggraver les choses, disons, a rendu les Européens, je veux dire, inertes par rapport à la situation.
Écoutez, le premier ministre belge de Croix, qui est un atlantiste libéral, a annoncé qu'on était parti pour 5 hivers de misère en Europe. Cet hiver, les Européens en France, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, qui est l'épicentre de la crise socio-économique en Europe, ils vont devoir choisir entre se soigner, se chauffer, circuler en voiture ou manger. Voilà ce qu'on est. Mais le fondement de l'échec européen, il n'est pas économique, il est géopolitique. L'Union européenne, c'est un projet géopolitique morné depuis le traité de Maastricht. En effet, dans le traité de Maastricht, on confie la défense de l'Europe à l'OTAN, c'est-à-dire à une puissance, les États-Unis extra-européennes. L'Europe va finir par exploser, évidemment. Les Romains parlaient, il y avait un siècle, de l'hubris, c'est-à-dire l'excès de puissance qui conduit à l'échec. Aujourd'hui, l'hubris détruit l'Union européenne. Mais évidemment, les Américains ont tort de se réjouir. S'ils sont en train de faire du tort à la Russie et de ruiner économiquement l'Europe, ils ont sapé les fondements du nouvel ordre mondial géopolitique proclamé en 1991, ils ont sapé les fondements de la globalisation, le Macworld, et ils sont en train d'assister à la dédollarisation du monde et à la perte de contrôle du marché des hydrocarbures.
D'ailleurs, aujourd'hui, Monsieur Luc
82%
Michel,
de la population mondiale soutient la Russie ou est neutre, et 18% seulement soutiennent les USA. C'est la fin de l'ordre occidental.
D'ailleurs, M. Luc Michel, désolé de vous couper, il y a également eu le fait que ces derniers temps, on voit bien au sein de l'OTAN une désunion entre la Norvège qui déclare qu'il ne vendra pas son gaz avant comme au prix d'avant la crise, que les États-Unis vendent leur gaz de schiste, qui est un polluant énorme, à un prix exorbitant. Même Macron l'a souligné, lui qui est un grand ami du système américain. On voit en plus, du fait que l'Union européenne commence vraiment à avoir mal au dos, on voit en plus une désadhésion de l'unité de l'OTAN.
Vous ne devez pas vous tromper. La crise, ce n'est pas à l'intérieur de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'union militaire dans laquelle on enserre les Européens. La crise, elle est à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a des égoïsmes nationaux, des politiques divergentes. Les Allemands voudraient négocier en sous avec la Russie. On a d'ailleurs confié en ce sens une mission au chancelier Schröder. Victor Orban, qui est l'allié de la Russie au sein de l'Union européenne, il organise le mois prochain un référendum en Hongrie. La question posée, c'est doit-on continuer les sanctions contre la Russie ? Donc, je tiens à le souligner, la crise de l'intérieur de l'Union européenne, et la Russie l'a compris. Medvedev, lorsqu'il appelle à sanctionner les politiciens atlantistes de Bruxelles, de Paris, de Londres ou de Berlin, il a compris la stratégie à suivre. Il faut briser les Occidentaux sur la question de l'Union européenne et l'OTAN suivra.
Merci, Monsieur Luc Michel. Maître Develay, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'OTAN semble unie malgré le fait que différents membres de l'OTAN ont à plusieurs reprises montré leur désunion, c'est-à-dire ne sont pas montrés coopérants par rapport à la crise énergétique? Ou est-ce que vous êtes comme Luc Michel en disant que la crise vient de l'Union européenne et non pas de l'OTAN?
Non, Luc Michel a parfaitement raison. C'est l'Union européenne qui sera le talon d'Achille de l'OTAN. À partir du moment où les deux attelages sont corrélés, si l'Union européenne venait à imploser et les lignes de fracture sont clairement établies, et on peut imaginer que dans la trajectoire actuelle, les lignes de front, les lignes de fracture vont s'intensifier jusqu'à ce que les contradictions internes de l'Union européenne lui explosent à la figure, ce qui entraînera de facto, par effet mécanique, une désagrégation de l'OTAN.
Ce qui me fait penser, selon vos propos à vous, M. Luc Michel et à Maître Develay, qu'en fait, là, malgré le fait que d'un point de vue territorial, la Russie peine à récupérer certains territoires par rapport aux parties qui sont en guerre, l'Europe et l'OTAN sont en train de perdre d'un point de vue économique et géopolitique. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Luc Michel, en quelques mots?
La Russie ne mène pas une guerre, elle mène une opération militaire spéciale. Et elle est très réservée parce qu'elle ne peut pas frapper militairement des territoires et les détruire alors qu'elle veut les récupérer. Tout le reste est de la propagande de guerre de l'OTAN. Actuellement, l'armée ukrainienne dispute à la Russie 5000 km², mais la Russie a annexé plus de 100 000 km². C'est cela la réalité. La Russie gagne en Ukraine, elle gagne en Afrique, elle gagne géopolitiquement, elle gagne économiquement. Voilà ce qu'il faut retenir évidemment de toute l'affaire, bien entendu. Mais maintenant, ce qu'on va insister, c'est de plus en plus à des lignes de fracture. Plus la crise économique va s'étendre, l'Allemagne, par exemple, n'acceptera jamais de voir détruire son industrie. Cette industrie dépend essentiellement des fournitures de gaz russe bon marché. Le 8e train de sanctions de Bruxelles, c'est l'interdiction de l'importation d'acier russe vers l'Allemagne et la Belgique. Les dernières industries belges et allemandes vont donc disparaître. Le gouvernement atlantiste de Bruxelles, d'ailleurs, s'est abstenu de voter cette sanction. C'est cela la réalité. La victoire finale appartiendra à la Russie. Je n'en ai pas de doute.
Merci Luc Michel. C'est là que je remercie nos invités d'avoir participé. Maître Arnaud Develay, juriste international. Monsieur Luc Michel, géopoliticien à partir de Bruxelles. Moi, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Donc, je rappelle le titre, l'OTAN et les manifestations dans l'Union européenne qui s'opposent donc à la guerre avec la Russie et aux conflits et aux problèmes vus par rapport à l'énergie et à l'économie. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir à partir des studios de Téhéran, de Prestivi. À bientôt pour le prochain débat.
À quoi jouent les États-Unis et l'Allemagne? Sous nos yeux, l'Allemagne, qui vient de perdre son approvisionnement en gaz russe et ne pourra en obtenir au mieux que le 6e en Norvège, s'enfonce dans la guerre en Ukraine. Elle devient la plaque tournante des actions secrètes de l'OTAN qui agit en définitive contre elle. Le conflit actuel est particulièrement opaque lorsque l'on ignore les liens entre les Straussiens US, les sionistes révisionnistes et les nationalistes intégro-ukrainiens. Aujourd'hui, nous ne voyons que la guerre en Ukraine et avons oublié le conflit majeur dans lequel elle se situe. Du coup, nous ne comprenons pas ce qui se passe sur le champ de bataille, ni ne percevons correctement la manière dont le monde se réorganise et particulièrement la manière dont le continent européen évolue. Tout a commencé avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Il s'est entouré d'anciens collaborateurs qu'il avait connus durant sa vice-présidence, les Straussiens. Cette petite secte varie de couleur politique, soit républicain, soit démocrate, selon le parti du président en exercice. Ses membres, presque tous juifs, suivent l'enseignement de Léo Strauss. Ils pensent qu'ils ne pourront survivre qu'en constituant eux-mêmes une dictature et en conservant le contrôle. Dans les années 2000, ils avaient constitué le Project for a New American Century. Ils avaient appelé de leur vœu un nouveau Pearl Harbor qui choquerait tant les esprits états-uniens qu'ils parviendraient à leur imposer leur vue. En novembre 2021, les Straussiens ont envoyé Victoria Nuland sommer le gouvernement russe de se ranger derrière eux. Mais le Kremlin leur a répondu en proposant un traité garantissant la paix, c'est-à-dire en contestant non seulement le projet Straussien, mais aussi la prétendue politique de sécurité des États-Unis. Le président Vladimir Poutine a remis en cause l'extension de l'OTAN à l'Est qui menace son pays et la manière dont Washington ne cesse d'attaquer et de détruire des États, notamment au Moyen-Orient élargi. Les Straussiens ont alors délibérément provoqué la Russie pour la faire sortir de ses gonds. Ils ont encouragé les nationalistes intégraux ukrainiens à bombarder leurs compatriotes du Donbass et à préparer une attaque simultanée du Donbass et de la Crimée. Moscou, qui n'avait aucune confiance dans les accords de Minsk et se préparait depuis 2015 à un affrontement mondial, a jugé que le moment était venu. 300 000 soldats russes sont entrés en Ukraine pour dénazifier le pays. Le Kremlin considère à juste titre que les nationalistes intégraux qui avaient fait alliance avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale en partagent toujours l'idéologie raciale. Les Straussiens n'ont que faire de l'Ukraine ce qui les intéresse, c'est la domination du monde et donc l'abaissement de tous les autres protagonistes de la Russie, de la Chine et des Européens. Les Russes ne s'y trompent pas, c'est pourquoi ils ont envoyé fort peu de troupes en Ukraine, 3 fois moins que l'armée ukrainienne. Il est donc stupide d'interpréter leur lenteur comme une déconvenue alors qu'ils se réservent pour l'affrontement direct avec les États-Unis. Aujourd'hui, les Straussiens ont poussé au sabotage des gazoducs Nord Stream. Contrairement à ce que prétendent certains, il ne s'agit pas de casser l'économie russe qui a d'autres clients, mais l'industrie allemande qui ne peut pas s'en passer. Normalement, Berlin aurait dû réagir face au crime, mais c'est tout le contraire. Dès l'arrivée d'Olaf Scholz à la chancellerie, son gouvernement a mis en place un vaste système visant à harmoniser les nouvelles. Il est supervisé par la ministre de l'Intérieur, la social-démocrate Nancy Fiaser. Tous les médias russes s'adressant à un public occidental ont été interdits à partir du 24 février 2022, c'est-à-dire à partir de l'application par l'armée russe de la résolution 2202 du Conseil de sécurité. Désormais en Allemagne, citer cette résolution et partager l'interprétation russe est assimilé à de la propagande. Il est très étonnant de voir les Allemands saborder eux-mêmes leurs institutions. Au XXe siècle, l'Allemagne, qui avait été le phare des sciences et des technologies avant la Première Guerre mondiale, est devenue en quelques années un pays aveugle qui a commis les pires crimes. Au XXIe siècle, alors que son industrie était la plus performante au monde, l'Allemagne s'aveugle à nouveau sans raison. Les Allemands éternisent eux-mêmes leur chute au profit de la Pologne, celle de l'Union européenne, au profit de l'initiative des trois mers Intermarium. De leur côté, les Straussiens utilisent leurs privilèges en Allemagne, les bases militaires américaines y disposant d'une extraterritorialité complète et le gouvernement fédéral n'a pas le droit de limiter leurs activités. Ainsi, lorsqu'en 2002, le chancelier Schröder s'opposa à la guerre des Straussiens au Moyen-Orient, il ne put pas empêcher le Pentagone d'utiliser ses installations en Allemagne comme base arrière de son invasion et de sa destruction de l'Irak. C'est à Rammstein que le groupe de contact de défense de l'Ukraine s'est réuni. Les délégués de la cinquantaine d'États invités après avoir été raquettés pour doter Kiev d'une multitude d'armes ont eu droit à des explications sur le concept du fonctionnement de la Resistance Operating Concept, ROC. Il s'agit de réactiver pour la énième fois les réseaux Stay Behind mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, ils furent d'abord créés par la CIA états-unienne et le MI6 britannique avant d'être intégrés dans l'OTAN. Les anciens nazis et les nationalistes intégraux ukrainiens furent la principale composante. Le réseau Stay Behind actuel est coordonné depuis 2013 par l'OTAN sur la base de Stuttgart, où résident les forces spéciales américaines pour l'Europe. Il s'agit de créer un gouvernement en exil et d'organiser des sabotages sur le modèle de ce que firent le général Charles de Gaulle et le prophète Jean Moulin durant la Seconde Guerre mondiale. La Resistance Operating Concept, ROC, a ajouté les manifestations non violentes testées par le professeur Gene Sharp dans le bloc de l'Est, puis lors des révolutions colorées. Rappelons que contrairement à ce qu'il prétendait, Gene Sharp a toujours travaillé pour l'Alliance Atlantique. La première manifestation du Stay Behind ukrainien a eu lieu le 8 octobre avec le sabotage du pont de Crimée sur le détroit de Kerch.